La culpabilité a un effet paralysant. Elle donne parfois le sentiment d'être tiré vers le bas, sentiment d'impuissance, désespérance. Comment le Christ nous libère de ce sentiment? Qu'en dit la Bible? C'est ce que nous avons voulu savoir dans cette dernière émission consacrée à la culpabilité.
Psy et Spi, Sophie Lecomte, avec le Père Jean-François Noël.
Bonjour Père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse d'Auxerre, les psychanalystes, place à la dernière émission consacrée à la culpabilité. Ça vous énerve quand je répète Bah oui, il faut bien. Vous savez très bien qu'il peut y avoir des auditeurs qui nous rejoignent uniquement aujourd'hui.
Non.
Donc il faut toujours préciser. Lorsque je vous vois faire des mimiques pour les auditeurs, je précise. Alors dans cette culpabilité qui nous habite, on parle de choses plus sérieuses maintenant, quelles sont selon vous les mauvaises réponses à cette culpabilité ?
Les mauvaises réponses.
Oui, les mauvaises réponses.
Bah alors, je l'ai déjà énoncé, mais il en manquait une et je vais l'aborder. C'est donc l'évitement, l'enfouissement, le refoulement. Je veux pas savoir. Je suis au-dessus de ça. C'est pas moi. Ça correspond pas, etc. Et puis bon, ça sent. À un moment donné, j'allais dire, ça revient en surface. Il suffit d'une épreuve et ça m'est arrivé récemment pour que des choses très anciennes me reviennent en mémoire et que j'avais pas réglé. Voilà. Donc de toute façon, on est quand même d'une manière ou d'une autre obligé de passer par ces fautes qu'on a commises. Consciemment ou pas d'ailleurs, c'est un peu compliqué, et puis qu'on n'a pas traversé, qu'on n'a pas avoué. Quoi. Alors, en plus, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est que, et ça c'est une phrase de Lévitique qui le dit, c'est que tu reprocheras à ton frère la faute qu'il a commise sur toi, sinon tu porteras sa culpabilité. Je vais répéter. La faute qu'on a subie, il y a les fautes qu'on a commises, qu'on a pu oublier, culpabilité enfouie, mais quand même présente. Et puis, il y a aussi les fautes subies. Donc, on vous a maltraité, etc. Et puis, vous n'êtes pas défendu, et puis vous avez enfoui ça. Et bien, tant que vous ne pouvez pas le reprocher à l'offenseur, vous emportez la culpabilité. C'est d'ailleurs tout le problème, mais je ne vais pas rentrer parce que ce n'est pas très drôle, mais tout le problème des survivants des camps de concentration qui culpabilisaient d'avoir été des survivants. Et s'ils étaient survivants, c'est qu'ils avaient, d'une manière ou d'une autre, oublié leur frère. Quoi. Primo Levi raconte qu'il était ami avec un co-détenu et qu'il n'a pas dit à son co-détenu dans une cave où il travaillait comme on peut imaginer, il n'a pas dit qu'il y avait des gouttes d'eau qui coulaient d'un tuyau et que toute sa vie l'a culpabilisé de ne pas l'avoir partagé avec ce frère qui est mort. Et que d'ailleurs, il s'en est suicidé. Primo Levi, comme Bettelheim, enfin bon. Et puis, ce n'était pas une faute grave par rapport à ce que lui faisaient subir les nazis. Hein. Bon. J'envoie ce livre, si c'est un homme de Primo Levi, il faut lire ça une mois au fin de sa vie. C'est-à-dire, c'est très intéressant et on comprend. Il n'empêche que les fautes qu'on a subies, tant qu'on ne peut pas les reprocher, alors c'est très difficile le reproche, parce qu'il ne faut pas que ce soit un reproche avec vengeance, sinon ça devient ce qu'on voit actuellement sur les écrans, c'est-à-dire...
Vengeance est une mauvaise réponse à la culpabilité.
Oui, parce qu'elle ajoute de la destructivité. La culpabilité, c'est une destructivité. C'est comme si... c'est pour ça que je parlais de remords et de ronds. On est rongé par la culpabilité, donc on est mangé de l'intérieur, comme un animal, comme un cancer. Quoi. C'est un cancer de l'esprit, la culpabilité. Et tant qu'on se laisse manger... c'est pour ça qu'on se défend. Et donc la vengeance, c'est le chemin qui paraît le plus évident, sauf que il ajoute de la violence à la violence.
En quoi la culpabilité nous empêche-t-elle de rejoindre Dieu ?
Non, elle nous empêche pas. Elle en est la voie privilégiée si nous acceptons de le lui confier.
Alors on parlait des mauvaises réponses en ce début d'émission. Alors les bonnes ?
Les bonnes, c'est de fait. Je prends un exemple, j'ai toujours pensé que mes parents préféraient mon frère, qui est plus sportif, qui est plus beau, etc., etc. Enfin, peut-être que maintenant, c'est plus vrai, parce que c'est un vieux, mais enfin bon, je déconne. je plaisante. En relisant ma vie, je me suis aperçu que peut-être que je faisais tout pour le rendre jaloux. Et en fait, ce que je raconte, c'est banal, parce que toutes les familles, il y a des histoires comme ça. Moi, je pensais que mes parents préféraient mon frère parce qu'il était plus sportif et que moi, je l'étais moins. Mais au fond, je l'ai peut-être agacé par mon comportement en étant l'aîné. Et donc, on a des fautes bien partagées dans cette charge. Bon, ça veut dire que... Et un jour, on s'est expliqué. Je vais t'expliquer, il m'a dit le plus beau jour de ma vie, c'est quand je t'ai cassé la gueule.
C'est ça la bonne réponse ?
Oui, parce que je ne l'ai pas gardé pour moi. Non, pas de se casser la gueule, de s'expliquer. On s'est cassé la gueule comme deux frères, c'était fraternel. Mais c'était pour lui une façon un peu quand même de régler les comptes, quoi, par rapport à...
La bonne réponse, c'est de communiquer, de dialoguer.
Voilà. De l'explorer. Et donc, effectivement, c'est quand même moins douloureux de la présenter devant un prêtre, si on est catholique, ou dans une confession, ou dans un accompagnement spirituel.
Alors, n'allez pas trop vite, justement. Je me demandais, faire la vérité dans sa vie, on en parle beaucoup, ça aide à soigner la culpabilité. Quel est le rôle, justement, du sacrement de réconciliation?
Justement, d'être accompagné pédagogiquement sans se détruire soi-même à un aveu des fautes qu'on a accumulées, subies ou provoquées pour qu'on soit regardé comme un enfant blessé, mais sauvé. L'enfant prodigue.
Par rapport aux remèdes qu'on peut avoir pour lutter contre la culpabilité, la confession est un bon remède.
Bien sûr. Mais... après, toute forme d'aveu, la confession, d'autant plus qu'elle est couronnée par le sacrement du pardon de Dieu. Mais l'aveu fait à... Moi, je sais pas, quand mon père est décédé et qu'il était sur son lit de mort, je lui ai dit des choses, je lui ai reproché et j'ai... Mais j'étais... alors il était mort, hein, mais enfin, je suis chrétien, donc je pense qu'il écoutait, qu'il était vivant. Et je pleurais, et je riais, et de lui reprocher des choses qu'on ne s'est pas bien entendu, mais ça c'est fréquent.
Vous faisiez la vérité en vous à ce moment-là?
Oui, mais je pense que j'avais, en le disant à papa qui était allongé sur cette table, je pense que je dis ça parce que les gens disent une fois qu'il est mort, mais non, c'est pas vrai, moi je converse avec les morts, je continue. Alors évidemment, je n'entends pas clairement la voix de mon père ou des défunts, mais on n'a pas fini l'histoire avec nos proches. Alors il y a des gens, vous allez me dire, oui, il y a des gens avec qui on ne peut pas reprocher, parce qu'ils sont de fait absents, ou ils ne veulent pas. Dans ce cas-là, c'est pour ça que l'Église a inventé un système de confession qui permet, si on ne peut pas reprocher directement à celui qui nous a offensé la faute qu'il a commis sur nous, de le faire par le biais de le sacrement de... Voilà, je demande pardon de ne pas avoir le courage de dire à telle personne qu'elle m'a fait du mal. Ou je demande pardon parce que j'ai fait du mal à telle personne et que je ne sais pas lui dire.
Le Christ qui nous libère de la culpabilité, comment on explique que les gens ne courent pas plus à l'Église pour se confesser?
Parce qu'il y a eu un soupçon qui a été mis sur la culpabilité, à la fois dû à la psychologie, mais c'est à tort parce que la psychologie a bien mis en évidence l'importance de la culpabilité, et elle a fait croire que la psychanalyse, par exemple, et je suis bien placé pour le savoir, est déculpabilisée, ce qui n'est absolument pas vrai. Au contraire, elle joue en plein milieu.
Notre société actuelle, vous voulez dire, en gros, pense que la culpabilité pourra se soigner dans une thérapie plus que dans la confession.
Oui,
ça a complètement éliminé cette idée.
Oui, parce que maintenant, c'est ce qu'on appelle les mauvaises solutions à une vraie question. C'est-à-dire, tu te sens coupable, mais t'es pas coupable de la mort de ta sœur, de ton frère, de la maladie. Mais si, mais tu te sens complètement coupable. Ce refus est extrêmement dangereux et pathogène, parce que c'est pas en faisant un stage de développement personnel que je vais essayer ma culpabilité parce que j'ai pas assez aimé mon frère, ma mère ou mes enfants. Ça va rien changer. On soigne actuellement l'ego, le moi. Alors c'est pas du tout un soin, c'est qu'il faut soigner des relations. C'est dans les relations qu'on est coupable.
Donc une thérapie, ça ne sert pas à aider à...
Si, une thérapie,
à
c'est
soigner
une
la
relation.
Culpabilité.
Une thérapie, c'est une relation particulière, singulière, étonnante, qui est faite avec le thérapeute, pour soigner d'autres relations. Mais quand on fait des stages de développement personnel pour développer ses talents, ses potentialités, sa paix intérieure, ça ne soigne rien.
C'est un cautère sur
les
jambes de bois.
C'est ce qu'un de mes amis appelle l'obésité de l'ego. C'est-à-dire, on gonfle l'ego. Voilà, on est très. Oh, je suis en paix, je suis calme, je suis zen. Enfin bon, ça. Puis en plus, c'est une moquerie de l'hindouisme qu'on ne connaît pas. Et c'est pas ça non plus, les religions orientales. Enfin, je veux dire, c'est pas zen et compagnie. C'est bien plus complexe que ça. En fait, on n'est pas dispensé, et c'est ce qu'on disait au début, on n'est pas dispensé d'un combat avec soi-même. C'est ce que j'ai raconté. C'est pour ça que ce texte avec Jacob est extrêmement parlant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va bien falloir qu'on, qu'on se confronte à soi-même. Enfin, moi, je sais qu'une nuit, j'ai été trahi par quelqu'un, et enfin, bon, peu importe, comme beaucoup, on a tous vécu, et puis on vieillit, puis on a vécu des choses difficiles. Donc voilà. Et une nuit, j'ai vraiment senti que j'étais. Mais je ne savais pas ce qui m'arrivait, tellement j'étais sans dessus-dessous, quoi. Je me suis réveillé en pleine nuit. Mon réveilleur était arrêté à 10 heures alors que j'ai regardé mon téléphone. Malheureusement, qui était à côté de moi, il était 2h du matin, et j'ai l'impression que quelqu'un s'était battu avec moi. Et le lendemain, j'étais fatigué, comme si je m'étais battu, mais léger.
Qu'est-ce qui nous dit cet évangile de Jacob, dont on a beaucoup parlé dans la troisième émission, pour soigner la culpabilité ?
Il faut démonter les stratégies d'évitement. De toute façon, un jour ou l'autre, on va y aller à cette rencontre avec notre faute ou la faute qu'on a commise. Moi, par exemple, je dis aussi ça parce que, par exemple, on sait la solidarité qui passe de génération en génération. Donc, il y a aussi des choses que j'ai apprises de mon histoire personnelle et celle de mes parents qui s'est transmise. C'est pas des fautes, c'est des histoires blessées qui se transmettent. Et donc, à un moment, il va falloir que, en mon nom et à mon titre, je les assume et les traverse.
Avec Dieu ?
Alors oui, alors ça de fait, c'est vrai que la veille, les quelques jours avant cette nuit agitée, et puis comme je connaissais le texte de Jacob, j'ai quand même pensé quoi. J'étais dit à Dieu, écoute, oui, je me sens coupable, je sais pas très bien de quoi, mais j'arrêtais d'être lâche et évitant par rapport à ma propre culpabilité dans cette histoire, parce que après on sait plus, quelqu'un nous a trahis, on a envie de lui rendre son compte, de lui faire entendre, etc. Il faut d'abord se désarmer de violence pour entendre sa vraie faute. Sinon, ben on en arrive à l'Ukraine et Poutine, on en arrive à Gaza et Netanyahou. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, on actuellement... Le mal, c'est que l'addition exponentielle de destructivité, de vengeance qui sont aveugles. Ça ne sert à rien d'écraser Gaza pour... Ça ne servait à rien non plus de récupérer 120 otages. Je veux dire, on voit bien l'aveuglement de la vengeance, de la faute. C'est votre faute, c'est votre faute. À un moment, il faut bien que quelqu'un l'assume, et c'est ça que le Christ a fait. Il vient arrêter, il essaye d'arrêter à un moment donné la montée.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël, pour vos éclairages à la fois en tant que prêtre et psychanalyste. Et je rappelle que vous pouvez retrouver toutes les émissions Psy et Spi sur rcf.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Place à un nouveau thème la semaine prochaine. Belle semaine à tous sur RCF.
Sophie Lecomte avec le Père Jean-François Noël.